Good morning. I'm Hans Gorger Ruprecht. This is CKCU Literary News, bringing you Parole d'Afrique, une émission animée par Antoine Oulu Garcia à Paris.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Parole d'Afrique, une émission que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre en live à la radio, en streaming et podcast sur Internet, mais aussi sur notre page Facebook, émission littéraire Parole d'Afrique, et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un spécialiste de la littérature africaine, et plus particulièrement de la langue française en Afrique, j'ai nommé Jean-Michel Nzikou. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une thèse publiée en 2005 sur la situation sociolinguistique du Congo-Brazzaville, où vous regardez comment la langue française est appropriée et donc modifiée par les locuteurs francophones du Congo. Expliquez-nous ce phénomène et son mécanisme.
Je pense qu'au départ, il faut que je prenne une première précaution de ne pas se perdre dans des considérations totalement théoriques. Je voudrais donner deux, trois petites précisions pour qu'on voit un petit peu le lieu d'où je parle. Cette thèse a porté sur... le français au Congo, comment une langue qui au départ est une langue imposée va s'indigéniser, c'est-à-dire quitter son piédestal, une langue qui était dans un espace qui était totalement clos, qui est l'espace de l'école, l'espace de l'administration, pour entrer dans la cité indigène, hein, dans les populations locales. Comment il s'approprie cette langue? Bien évidemment, une langue en pareille circonstance qui commence à voir, si on peut me passer l'expression, des relations de cousinage avec des langues locales qui ont un accent fort éloigné du parler hexagonal, ben, la langue française ne va pas rester intacte, hein, puisqu'elle est rentrée dans une sorte de relation au sens sous-l'entend glissant, hein, en créant un lien profond. Alors, il va avoir des modifications aussi bien au niveau du lexique qui est utilisé, au niveau de la connotation qu'on donne aux mots, étant entendu que derrière chaque mot, il y a une part de l'imaginaire de cette population qui apparaît. Hein. Donc derrière l'appropriation de la langue, il y a le pot de la culture, des cultures locales qui vont apparaître. Et cette langue, par le fait, devient une sorte de palimpseste, une peau, qu'il suffit de gratter pour voir transparaître le texte d'origine, c'est-à-dire le texte local, donc la façon d'envisager l'environnement, la façon de penser le monde, qui est propre aux populations locales. Alors, je veux donner quelques exemples concrets. Si vous prenez l'expression « bureau », dire de quelqu'un qu'il a un deuxième bureau ne veut pas dire qu'il a un espace géographique, physique, avec un bureau, avec une secrétaire à côté, mais bien une personne qui a une maîtresse.
D'accord.
On se dit, avoir une maîtresse, c'est avoir un deuxième bureau. Alors le deuxième cas qu'on pourrait citer, c'est également celui qui consiste à... Bon, c'est une expression qui se dit « casser le frein de sa bouche ». Quelqu'un qui casse le frein de sa bouche, c'est quelqu'un qui manque de retenue et de devoir de réserve.
D'accord.
Donc voilà, c'est un petit peu... Il y a ce travail qui est fait sur la langue, qui montre bien que la langue n'est plus quelque chose de, je dirais, étrangère, mais elle devient une langue qui s'enracine progressivement pour faire partie du paysage linguistique du pays d'accueil.
Alors là, effectivement, ce que vous nous dites, c'est que la langue devient une langue transformée dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de tous les locuteurs. C'est aussi le cas, si je ne me trompe pas, au niveau littéraire. Et vous avez étudié Sonny Laboutancier, le grand écrivain congolais, qui lui-même disait « Les Congolais sont des locataires de la langue française qui contribuent aux travaux d'aménagement dans la baraque ». Alors expliquez-nous, parce que vous avez étudié Sonny, expliquez-nous comment lui-même modifie certaines expressions françaises.
Sonny Laboutancier est un écrivain congolais très très prolifique, hein, à qui on doit un corpus littéraire assez important, et que l'on comparait même à tort ou à raison comme étant le Gabriel Garcia Marquez de l'Afrique, hein, par la qualité de son œuvre et de ses textes. C'est quelqu'un qui est né à Kimwanza, à l'actuel Congo démocratique, mais qui était du Congo Brazzaville, où il a fait l'essentiel de sa carrière, d'abord en tant que prof de français et prof d'anglais, et ensuite avant de se consacrer entièrement à l'écriture. Il était à la fois poète, dramaturge et romancier, en sachant que ce qui l'a fait révéler, c'est le prix qui lui avait été attribué par RFI
Bien sûr.
sur une pièce de théâtre qui s'intitulait Conscience de tracteur. Voilà. Et un clin d'œil pour vous, une de ses pièces intitulée Antoine m'avons vu son destin a été montée au Festival de Limoges, une des dernières pièces qui avait été montée par avec le concours mise en scène avec le concours de Daniel Mesquiche, donc à Limoges, au Festival des francophonies. Alors Sonny Labroutanci avait ceci de particulier, c'est que il a commencé sa scolarité dans sa langue maternelle qui est le kikongo. Et il a appris le français sur le tard. Et en même temps, il avait une grande connaissance des langues locales, ce qui fait il en a beaucoup joué. Or, malheureusement, les critiques qui se sont abondamment penchées sur l'œuvre de Sony n'ont jamais relevé tout le travail fait par Sony par rapport à la langue, en utilisant. Par exemple, des outils théoriques tels que ceux que ce soit je dirais, de Genette ou encore le travail d'Edouard Glissant, tout le travail de réflexion d'Edouard Glissant sur la poétique, sur la langue, l'utilisation de la langue, et encore, je dirais même de Compagnon, tous les travaux de Compagnon, de Bartine, qui pourraient être assez intéressants pour éclairer cette œuvre-là. Tout s'est toujours passé comme si c'était des œuvres de seconde zone pour lesquelles on ne pouvait pas utiliser ce qu'on estimait être une réflexion tout à fait noble et qui ne seyait pas véritablement à une forme de distraction hein, que de regarder les textes africains. Mais quand on regarde bien à la lumière de ces outils-là, on s'aperçoit qu'il y a un véritable travail qui est fait sur la langue. Il y a un travail, je dirais, d'une extrême richesse. Je veux donner quelques exemples concrets pour que l'on voit un petit peu ce qui apparaît chez Sony. Il n'y a pas que les emprunts aux langues locales, hein, et l'enchâssement, il y a une forme de millefeuille où on voit apparaître plusieurs langues à l'intérieur de la langue. Hein, cette forme de langage que l'on crée soi-même, pour reprendre l'expression de Proust qui disait que l'écrivain faisait sa propre langue comme un violoniste est obligé de se faire son propre son. C'est exactement ce que faisait Sony. Hein. Quand on prend par exemple l'Antépeuple, vous reprenez un court extrait de ce roman, vous apercevrez tout de suite que c'est un véritable habit d'Arlequin qui est fait de plusieurs langues. Hein. Et donc, il y a un exemple, c'est celui de la chanson de Taboulé qui est reprise dans le texte de Sonny Labroutanci. Il est dit à peu près ceci: mais en fait, dans la langue, mais dans la chanson, il fait disparaître l'expression Nzambe nakosa mela par Kwamisa, qui est une expression qui est tirée de la langue Congo, qui est insérée à l'intérieur du Lingala. Alors, la traduction littérale de ce court extrait que je viens de citer dit simplement la chose suivante: depuis ma tendre enfance, je n'ai jamais eu de bonne fortune, c'est pourquoi j'emmerde Dieu. Hein? Alors, donc, on voit bien qu'il joue beaucoup avec la langue. Quand on regarde, on se dit, ben oui, mais il s'est arrêté à un premier niveau, c'est du lingala. Mais en réalité, quand on creuse davantage, on s'aperçoit que c'est bien plus complexe que cela, parce qu'il va aller chercher un peu plus loin à l'intérieur de la langue. Et puis, en même temps, il y a aussi de la traduction. Hein.
Oui.
Quand on voit bien, il y a des traductions qui apparaissent, toujours dans ce même roman, où on voit l'expression « ce n'est pas le nombre de mouches qui fait la quantité de caca ». Alors, donc, c'est en fait des expressions, des traductions, des expressions tirées des langues dont Sony avait la maîtrise. Parce qu'il faut savoir que au Congo, les populations locales sont exposées assez abondamment à différentes langues qui ont une certaine parenté, puisque pour l'essentiel, ce sont des langues dites bantoues, hein, qui ont un fond commun, qui permet aux gens de ou qui peut parler chacun dans sa propre langue tout en étant compris par les autres, et on peut également répondre dans sa langue et les autres nous comprennent également.
Alors, il s'est passé une chose intéressante par rapport à ce que vous mentionnez sur le fait de mélanger les langues et de faire ce millefeuille linguistique. Lors de la remise du prix Mokanda, il n'y a pas très longtemps, au marché de la poésie, en juin dernier, Gabriel Okunji, qui était récompensé et qui est d'origine congolaise, a fait un discours de remerciement, bien évidemment, qu'il a conclu en récitant quelques vers de son recueil Stèle du Point du Jour. Il n'a pas récité son poème en français, comme c'est écrit dans le recueil, mais en langue téké, sa langue maternelle. Est-ce que ça vous inspire un petit peu aussi cette mixité linguistique?
Bien évidemment, puisque ce qui est valable pour Sony l'est également pour l'ensemble des écrivains congolais. Hein, et peut-être je pourrais l'étendre à ceux du Congo démocratique également, pour peu qu'on puisse s'arrêter véritablement, très sérieusement, à ces textes auxquels moi j'insiste, hein, on ne prête pas suffisamment de crédit ni d'attention comme il mériterait de l'avoir. Et Okunji est dans la même tradition que Sonny Labutansi, et il est dans la tradition, dans la continuité de Chikaya Ntamsi, hein, faut en parler, parce que si vous êtes au fait de la langue Vili ou des langues congolaises, vous verrez que du reste, Chikaya Ntamsi disait « la clé est sur la porte ». Et si vous reprenez dans un de ses romans, dans les contre-là, il y a un passage où il dit « la solitude du tam-tam sous le haut vent ». Mais c'est une traduction littérale, c'est la même chose que ce que fait Sony quand il dit « en fait, la traduction, c'est une expression vili qui veut dire « bouvek bondung kushalekou ». Alors, c'est une traduction de la langue, donc c'était quelqu'un qui connaissait parfaitement la langue de Vili et connaissait les traditions Vili du bout des doigts, et il en était pétri. Et en même temps, c'est quelqu'un qui était féru et passionné, il y avait quelque chose de rimbaldien chez Chikaya Ntamsi, et que l'on retrouve avec des touches différentes chez Okunji, avec, je dirais, encore beaucoup plus exacerbé, puisque chez Okunji, il y a cette espèce de travail sur soi-même. Okunji, je dirais, autant Chikaya Ntamsi et Sony sont des voleurs de feu, et Okunji est un chercheur d'absolu. C'est un esthète de l'écriture. Et les mots sont ciselés, sont pesés, peut-être du fait de sa naissance, parce que aussi bien Chikaya comme Okunji sont de lignée royale. Donc le verbe, ils n'étaient pas des gens qui étaient destinés à donner à entendre leur voix par eux-mêmes. Mais il fallait passer par la médiation, hein, par la médiation d'un maître de la parole qui devait faire un petit peu une sorte de traduction, de truchement, au sens de truchement, pour transmettre, pour faire passer des passeurs de mots, hein, pour que la parole de ce qu'il représentait, parce que c'est un corps qui devient un corps, qui est un corps de lignée royale, qui est sacralisé, avec des codes bien précis, qui ne doit pas tomber dans l'espace de la vulgarité par le fait qu'il aura à dire quelque chose qui sera mal perçu par le peuple, qui n'a pas forcément les codes nécessaires pour comprendre la substance, hein, la substantifique moelle de ce qu'il donne à entendre. Donc Okunji est dans cette ligne. Et peut-être voilà le griot pour Okunji, c'est la médiation de la plume, la tentation de l'écriture. C'est aussi une façon de créer une sorte d'antichambre où sa parole, elle est revisitée, elle est apaisée, elle est fluidifiée pour une réception, pour des gens, pour que cette parole-là, elle ne soit pas pervertie. Mais en même temps, ça ne règle pas totalement la question, puisque la disponibilité du sens, elle devient encore beaucoup plus grande. Elle est démultipliée à ce moment-là, quoi. Parce qu'il n'est pas certain que tout le monde reçoive à 100% le propos d'Okunji avec toute la charge culturelle, toute la charge sociale qui est traversée par ce propos-là.
Effectivement. Alors, pour nos auditeurs, hein, je rappelle sur Chikaya Ntamsi, je vous renvoie à l'émission qu'on avait faite avec Boniface Mongomboussa il y a quelques semaines, qui vous précisera qui est Chikaya, d'ailleurs ce que signifie ce surnom ou Ntamsi, et le rapport avec Sonny Labutansi qui a choisi ce surnom en fonction de Chikaya, et bien sûr le rapport avec Rimbaud. Jean-Michel Nzeku, petite question, est-ce qu'il n'y a pas un danger dans cette mixité linguistique à ce que certaines langues plus régionales que nationales, finissent par se perdre un peu comme le gaulois est devenu une langue dont nous ne connaissons rien parce qu'il a été supplanté par le latin.
Mais nous avons quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là. Il nous vient de Victor Hugo dans la préface au Cromwell quand il dit que toute époque a ses idées propres. Il faut qu'elle ait aussi des mots propres à ses idées. Les langues sont comme la mer, elles oscillent sans cesse. À certains temps, elles quittent un rivage du monde, la pensée, et en envahissent un autre. On ne peut pas figer la langue française, on ne peut pas la gendarmer, l'enfermer dans un espace comme si c'était une langue morte. Et cette langue, elle doit vivre, elle doit nourrir le plus grand nombre. C'est un médium qui est fait pour relier l'humain à l'humain. Et dès lors qu'elle cesse de jouer cette fonction vitale, elle n'a plus de raison, elle n'a plus de sens, elle n'a plus de raison d'être. Du reste, les académiciens ont compris, qui se rendent bien compte, que s'ils font rentrer des nouveaux mots dans le dictionnaire, c'est pour que ce ne soit pas quelque chose de figé, mais que ce soit un lieu dit qui permet d'irradier l'ensemble de la société par sa vitalité et par sa richesse. Et peut-être c'est de là que découle toute la quintessence du mot immortalité qu'il défend.
Ça montre bien à quel point aussi la langue française peut elle-même être enrichie par les langues africaines, par les expressions, même traduites littéralement en français, qui sont véhiculées. Question concernant désormais le festival Lumière d'Afrique, dont vous êtes l'un des cofondateurs. C'est un festival que dirige actuellement Gérard Marion et qui se déroule à Besançon. Il aura lieu cette année du 8 au 14 novembre. Donnez envie à nos auditeurs, en quelques mots, d'aller à ce festival.
Le festival Lumière d'Afrique, c'est avant tout une lucarne, je dirais, de manière imagée, ouverte sur l'écran des nuits blanches franc-comtoises et par-delà françaises. Parce qu'il faut que l'émerveillement nourrisse l'humain. Il faut que l'émerveillement nous serve de moteur. C'est ce à quoi s'emploie de ce festival, dont le but est aussi d'être au service du vivre ensemble et de permettre aux gens d'aiguiser leur curiosité et le sens de l'autre. Et ces jours qui sont consacrés à ce cinéma, c'est aussi pour montrer la créativité de l'Afrique, hein, la part qu'est la porte de rêve dans le pot commun pour que l'humain devienne véritablement un remède pour l'humain, comme le souhaitait Senghor. C'est un cinéma francophone qui s'exprime en français, dans la langue de Molière, et il a besoin d'être soutenu, il a besoin d'être entendu. Peut-être un discours qui vient d'Afrique dans un moment où la quête du sens devient de plus en plus accrue. Le discours africain, la vision du monde africaine, hein, les visions du monde, puisqu'il y a les Afriques, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas qu'une seule culture en Afrique, a besoin d'être entendu dans un moment où nous avons besoin de voir un peu plus clair dans cet océan de doute qui nous envahit.
Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce proverbe wolof qu'aimait à citer Senghor, l'homme est un remède pour l'homme, donc en wolof, nit nit ay garabam, qui est effectivement toute une philosophie humaniste que voulait véhiculer Senghor à travers la francophonie. Jean-Michel Zicou, vous avez une association à Besançon. Expliquez-nous un petit peu ça en une trentaine de secondes.
Alors, c'est Terre et Peuple d'Afrique. Là aussi, c'est une association qui accueille des écrivains et des artistes francophones africains pour promouvoir leur œuvre, leur permettre d'aller à la rencontre des franc-comtois et des Français qui sont attachés à la littérature, à la langue et aux cultures africaines. Donc nous essayons là aussi de continuer à faire vivre ce que vous venez de dire à propos de l'humanisme senghorien, cette utopie au sens de ce qui n'existe pas encore, parce que nous pensons qu'il est possible de vivre en bonne intelligence avec les autres, pour peu qu'on prenne le temps d'apprendre à se connaître et à s'apprécier pour faire un bout de chemin ensemble.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel, c'est ainsi que se clôt notre 7e épisode de Paroles d'Afrique. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, merci à Hans Ruprecht également de m'avoir confié cette chronique littéraire que j'ai toujours autant de plaisir à animer. Merci à vous Jean-Michel Zicou d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie d'avoir accueilli à votre émission.
Merci et chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures africaines avec au programme des prochains épisodes Gabriel Okunji dont nous avons parlé. Récent lauréat du prix Mokanda et un petit peu plus anciennement du Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Nous recevrons aussi bientôt Anne Bocandé, rédactrice en chef du magazine Afriscope. D'ici là, n'oubliez pas, comme le rappelait Jean-Michel Nzikou, l'homme est un remède pour l'homme. Pour CKCU Literary News, Antonio Le Garcia à Paris.
De la radio communautaire de Carleton University à Ottawa, c'était Parole d'Afrique, une émission de CKCU Literary News. Comme toutes nos émissions littéraires diffusées en trois langues, celle-ci vous est aussi offerte par Balado Diffusion Podcast, ainsi que sur notre liste lecture automatique CKCU On Demand, telle qu'indiquée dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter. Au plaisir de vous lire et merci.